Avant de partager ce message, effectivement juste, mais beaucoup le savent et cela a été dit, nous étions pour beaucoup hier dans la joie d'accompagner et de bénir aussi et Catherine et Nature qui se sont mariés et ont demandé la grâce de Dieu sur eux et sur leur couple. De vous donner une autre information, alors celle-là peut-être elle est moins connue de beaucoup, nos frères et sœurs Grisel et Guelta Stimen sont à nouveau parents depuis lundi, si je ne dis pas de bêtises, d'un petit garçon qui s'appelle Emiliano. Voilà. Et nous aurons certainement occasion bientôt de les voir, mais n'hésitons pas tous à les porter dans la prière pour tout ce que Dieu leur a donné. En ce week-end, qui a été d'ailleurs évoqué tout à l'heure, vous savez que pour beaucoup, je l'espère, demain vous aurez un jour de repos supplémentaire, a priori. C'est le cas à peu près pour vous tous? Bon, bah vous en avez de la chance, tant mieux, profitez-en. Mais c'est plus encore qu'un jour de repos, c'est surtout ce temps où nous venons à nous rappeler l'œuvre de Dieu, et notamment de cet événement fort, si important qu'est la Pentecôte. Et donc en ce week-end particulier, nous venons à nous rappeler l'œuvre de nouvelle création du Dieu Très-Haut, une œuvre qui a été initiée et marquée du sceau de cet événement important dans notre foi, qu'est cette Pentecôte qui a eu lieu autrefois à Jérusalem. Et surtout, ce que nous nous rappelons, c'est qu'il y a eu ce don de l'Esprit, qui lui est venu pleinement résider en chacun des disciples du Christ, et a fait naître ainsi une nouvelle nation. Une nation nouvelle dont les limites géographiques ne pouvaient que s'étendre au-delà des frontières connues, car cette nation nouvelle n'appartient pas du tout aux réalités de ce monde. Elle n'a pas de géographie, elle n'a pas de frontières à défendre, par des armes surtout. Elle est ce peuple de Dieu, à qui déjà tout appartient. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter avec moi à méditer quelques versets, non pas de ce texte que d'ailleurs nous avons entendu tout à l'heure, d'Acte 2, qui dit et raconte l'événement de la Pentecôte, mais à aller regarder dans l'évangile de Jean. Alors, j'aimerais vous inviter à prendre, pour tous ceux qui ont une Bible avec eux, l'évangile de Jean, et puis peut-être cela va s'afficher aussi ici même sur le mur, Jean chapitre 20, et nous irons lire un court passage, ce sont les versets 19 à 23. Donc Jean chapitre 20, les versets 19 à 23. Et juste petite anecdote pour ce matin, je peux vous affirmer que nous serons en communion autour de ce texte puisque je sais que l'église baptiste de Lyon, par son pasteur aussi, avait choisi ce même texte. Je le sais puisque leur pasteur là-bas est un très bon ami à moi, tout comme d'ailleurs Sarah qui s'est présentée puisque nous avons tous étudié ensemble et coup du sort, il a aussi lui souhaité partager ce texte. Donc voilà, sachez que Dieu nous invite tous ce matin à regarder à ces passages de l'évangile. Donc Jean chapitre 20, les versets 19 à 23. Et écoutons ce passage. Alors je le lis dans la traduction que j'aime le plus, celle du Semeur. Ce même dimanche, alors il ne s'agit pas d'aujourd'hui, ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint. Il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Et tout en disant cela, il leur montra ses mains, son côté, et les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous. » leur dit-il de nouveau. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Voilà ce court passage de l'Évangile de Jean, vers la fin de l'Évangile de Jean d'ailleurs, que je souhaite partager et retenir avec vous pour ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il y a quelque chose d'un peu bizarre. J'ose pas dire bizarroïde, ce serait trop. Ce souffle de Jésus, il souffle sur les disciples. Alors qu'il demeure encore auprès d'eux, dans ces quelques jours entre la Pâque, elle vient de passer, il vient d'apparaître enfin à ses disciples, et plus tard, son ascension, que nous avons d'ailleurs célébrée très récemment. Et de vous poser ainsi la question ce matin, Qu'est-ce que fait Jésus ici avec ses disciples? Il souffle sur eux, il leur dit surtout juste après recevez l'Esprit Saint, et nous ne sommes pas à la Pentecôte. Hein. Est-il question d'une Pentecôte avant l'heure pour les disciples qui se cachent et sont enfermés presque à double tour par peur des autres juifs? Y a-t-il là un geste, une sorte de mime où Jésus veut annoncer quelque chose à ses disciples? Ça reste quand même quelque chose d'étonnant. Il souffle sur les disciples. Alors c'est en plus un geste que seul l'évangéliste Jean rapporte à propos de tout ce temps du ministère du Christ, après sa mort, après sa résurrection et avant son ascension. Il n'y a que lui qui en parle, bien que ce récit de l'apparition du Christ auprès des disciples nous est rapporté dans les autres évangiles, notamment en Marc et Luc. Mais le fait qu'il vient souffler, seul Jean nous en parle. Alors comment comprendre ce geste qui semble être comme une Pentecôte vécue dans l'intimité, dans le secret d'un lieu privé et sans témoignage public? Puisque tout à l'heure nous avons entendu acte 2, les quelques personnes, les badauds qui étaient là, qui venaient en pèlerinage, pour certains croient qu'au jour de la Pentecôte, les disciples étaient un petit peu pompettes. Voire peut-être franchement pompette, allez savoir. En tout cas, ils les traitent de ivres. Ils n'ont pas dit ivres morts, quand même. Mais ici, dans ce temps où Jésus est encore auprès de ses disciples, et quand surtout il vient à leur apparaître, et avant même de leur souffler dans les bronches, quoique ce n'est pas tout à fait ça quand même, pour ceux qui connaissent bien l'expression, nous apprenons que nos disciples sont tous terrifiés. Seuls, juste avant, quelques femmes ont vu Jésus ressuscité. Les disciples, ça n'est pas encore le cas. En tout cas, ici, dans l'évangile de Jean, c'est ainsi que nous l'entendons. C'est vrai que si on regarde à d'autres évangiles, notamment à l'évangile de Luc, il y aurait au mieux les disciples d'Emmaüs qui, eux, quittaient Jérusalem et se rendaient à Emmaüs, qui ont eu le temps de cheminer avec lui et au dernier moment de s'apercevoir qu'ils étaient avec lui. Mais ici, on entend Jésus leur apparaître là, tout d'un coup, alors qu'ils se cachent, se sont enfermés dans cette chambre haute apparemment. Et ce que fait Jésus une fois qu'il leur est apparu est très important. En effet, que fait le Seigneur quand il leur apparaît? Il se présente à eux toujours en tant qu'homme. Il reste humain et d'ailleurs est marqué par les meurtrissures qu'il a dû connaître à la croix. Mais surtout à cette parole pour chacun de ses compagnons, de ceux qui sont ses disciples. Quelle est cette parole qu'il leur offre? Que la paix soit avec vous. Cette parole qui, pour ses disciples effrayés, qui ont vu leur maître mourir, et jusqu'ici ils n'ont peut-être pas encore saisi qu'il venait de ressusciter, il leur apparaît, mais il leur est peut-être encore un tout petit peu difficile de le comprendre. Mais cela arrive, cela va se faire. Mais cette parole, que la paix soit avec vous, qui pourrait être perçue comme une salutation habituelle pour l'époque, à la manière dont on se saluait autrefois, au temps de Jésus, c'était ainsi. Shalom, si vous préférez. Pour le dire en version très courte et très résumée, mais que la paix soit avec vous. Alors, il est plutôt rare aujourd'hui que l'on se croise et qu'on se dise cela. Mais c'était une salutation presque normale. Et pour autant, dans les circonstances de ce temps de l'Évangile, qui suivent la crucifixion de Jésus, cette parole n'a plus le même sens. Ce n'est pas juste un bonjour, ça va bien plus loin. Pour des disciples qui eux-mêmes étaient effrayés. Et cette parole du Christ est là revêtue d'une force insoupçonnée dans les paroles du Maître. Imaginez quand même dans quel état devait être la majorité de nos disciples, si ce n'est tous. Ils étaient dans la crainte. Ils étaient effrayés. Ils redoutaient au plus haut point même les représailles éventuelles des autorités juives qui, eux, avaient déjà fait mourir leur propre Maître. Et non seulement les disciples vivaient dans cette peur d'une persécution, mais il y avait encore une autre chose. Rappelez-vous aussi ce qu'ils avaient été eux-mêmes quand leur maître a été attrapé par les gardes du temple. Quand Jésus s'est fait arrêter, tous ou presque de l'équipe des disciples se sont carapatés quand même. Ils avaient fui. Et même Pierre, ce brave Pierre qui avait suivi de loin son maître, n'avait pu que le renier avant le chant du coq, car, comme tous les autres, il avait peur aussi pour sa propre vie. Autrement dit, là, dans ce temps où ils se cachent et ont fermé la porte, par peur, il est même certain que leur propre conscience les travaillait. Ils ont peur des autres, mais ils avaient peur aussi de ce qu'ils avaient fait. Comment notre Dieu peut nous regarder maintenant, nous qui avons trahi notre maître, nous qui n'avons pas su le défendre, nous qui n'avons pas su le suivre, moi, Pierre, qui ai renoncé et qui ai dit que je ne le connaissais pas plusieurs fois, alors que juste avant j'avais dit, moi, je serai avec toi. Bon, bref. On peut très bien comprendre là aussi que les disciples devaient s'accuser certainement au plus profond d'eux-mêmes de ne pas avoir été dignes de leur maître. Et alors que là, dans ce temps-là, leur maître est mort, cela fait 3 jours qu'il est mort, ils ne l'ont pas encore vu, seules les femmes l'ont vu et personne n'ose les croire. Ils vivent reclus, terrassés par cette double angoisse des autorités et puis de leur propre trahison. Et c'est Jésus qui vient vers eux. Jésus ne les attend pas dehors en disant « Hé, les loulous, vous sortez là, venez voir un peu qui est là. » Non, c'est lui qui entre. On ne sait pas trop comment d'ailleurs. Jésus a plus d'un tour dans son sac à ce moment-là, mais Jésus vient vers eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Et peu après d'ailleurs de le répéter « Que la paix soit avec vous. » On n'est plus dans le temps de la salutation. Quand vous dites 2 fois bonjour ou 3 fois bonjour à une même personne, en général, c'est plus un bonjour. Là. Il s'en fout, quoi. Mais là, ici, pour Christ, ça n'est pas ça. Il vient leur assurer de sa paix. Eux qui l'ont trahi, eux qui ont peur. Et surtout, c'est au milieu de ces paroles de réconfort que Jésus se dévoile à ses disciples dans son humanité. Une humanité qui porte désormais les traces de son amour pour chacun d'eux. Oui, dans la détresse des disciples, le maître qui leur apparaît, c'est un Jésus aimant. Celui qui est mort pour eux, qui a gardé trace de son amour. Et c'est ce Jésus aimant, ce Jésus qui vient avec consolation, qui se joint à eux et vient par ses paroles apaiser leurs craintes. Voilà qui est le maître désormais pour eux. Et cela pourrait paraître surprenant, mais dans ce temps où ses disciples qui étaient effrayés, et certainement aussi se sentaient coupables, Jésus qui vient bien sûr les rassurer, les consoler, les réconforter, Jésus ne s'arrête pas pour autant là. Il aurait pu leur faire des gros poutous, des tout ce que vous voulez, si on le met à la sauce moderne. Mais non, dans la continuité de ces paroles rassurantes, de cette parole qui restaure, Jésus les envoie dans le monde à sa suite. Parce qu'on a peur des autres au dehors, mais Jésus leur dit « Maintenant, vous allez devoir y aller. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, il ne le dit pas forcément pour l'immédiateté, mais ne leur fait pas oublier aussi quel va être leur rôle, plus encore. Cela avait commencé quand il l'accompagnait, et cela maintenant va se poursuivre, plus encore. Comme lui, et c'est ça qui est intéressant, la manière dont Jésus l'exprime, comme lui qui fut envoyé par le Père céleste, Jésus, lui le Fils, envoie maintenant à son tour ses disciples. Et c'est par ces mots que nous entrevoyons le rapport étroit entre la mission même du Messie et celle de ses disciples. Il y a une forme de continuité. Ainsi, les disciples ont vocation à continuer l'œuvre de Jésus. Non pas celle et unique qui a été accomplie une fois pour toutes à la croix, mais celle que Jésus leur a montrée, a témoigné, a enseigné. L'annonce de la grâce de Dieu, l'annonce du pardon qui est offert à tous, l'Évangile. Dieu pardonne les péchés. Et c'est cela maintenant qu'ils vont devoir annoncer. Autrement dit, Jésus, à la fois tout en les restaurant, les appelle à devenir maintenant les messagers de sa grâce. D'une grâce qui témoigne de l'amour du Créateur pour ce monde. Un monde qui pourtant a voulu la mort de ce Messie, et qui va certainement en vouloir aussi à la vie des disciples. Ils le savent, Jésus leur a déjà aussi prévenu. Mais pour autant, quand Jésus leur dit « Moi aussi je vous envoie », il ne faut pas le comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un ordre immédiat. Il n'est pas en train d'ouvrir la porte et maintenant leur mettre un bon coup de pied aux fesses en disant « Sortez, c'est l'heure ». Il y a un temps pour tout. Les disciples ne sont pas encore complètement prêts. Car il leur faut attendre. Il leur faut attendre et recevoir la promesse qui leur avait déjà été annoncée par Christ lui-même, plus tôt. Et là, je vais juste aller regarder un peu plus tôt dans l'évangile de Jean. N'allez pas regarder, je vous le donne. Mais en Jean 16, verset 7, il leur avait déjà dit ceci, « En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur de justice ou le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » Suivant les traductions, parfois vous avez aussi « consolateur » qui apparaît là. Alors, le mot grec a plusieurs sens, mais je pense le vrai sens ou le sens fort que Jésus emploie ici pour décrire l'Esprit-Saint, c'est plutôt le défenseur, plus que le consolateur. Il est celui qui sera votre avocat quand vous serez justement à venir témoigner de moi. Et pas forcément que dans les temps difficiles, là aussi dans les temps, j'allais dire, heureux, où ils viendront à rendre grâce. Mais voilà ce qu'est l'Esprit-Saint. Et Jésus ici leur fait entendre cela. Cette parole, avant même son sacrifice, qui annonce l'envoi de l'Esprit-Saint, est une parole prophétique. Non pas pour ce qui va se vivre là dans l'intimité avec les disciples, mais un peu plus tard, quand Jésus sera parti et que l'Esprit-Saint va tomber sur chacun d'eux. Va être donné à tous ceux qui lui appartiennent au jour de la Pentecôte. Or, et je reviens à tout à l'heure, cette chose bizarre que Jésus accomplit là. Or ici, Jésus leur apparaît et il a ce geste très étonnant. Il souffla sur eux et continua à recevoir l'Esprit Saint. Alors qu'est-ce qu'il fait là, Jésus? Puisqu'il leur a bien fait entendre qu'il devait être absent pour que l'Esprit Saint leur soit pleinement donné. Mais pour autant, il leur souffle dessus et leur dit « Recevez l'Esprit-Saint ». Alors, y a-t-il, je reprends ma question préalable, y a-t-il une Pentecôte en privé, vous savez, ces petites parties où seuls les privilégiés, avec leur passe, leur invitation, ont le droit d'être, qui signifie la Pentecôte pour quelques-uns avant? C'est difficile de le savoir. Et la manière dont Jésus exprime cela à ses disciples n'est pas sans rappeler un autre passage biblique, et c'est peut-être là-dessus que je veux m'arrêter avec vous ce matin. Ce que Christ fait ici en soufflant sur ses disciples fait écho à un récit biblique bien plus ancien, où il est dit d'ailleurs aussi que Dieu souffla. Et ce geste de Christ n'a rien de banal. Christ a eu fait des choses qui n'étaient pas très banales, mais qu'il ne faut pas toujours prendre à la lettre. Par exemple, pour un non-voyant, un aveugle, à un moment, il fait de la boue, il en applique sur les yeux. Il n'est pas dit que si nous venons à le reproduire, cela va systématiquement guérir les aveugles. Mais ici, ce geste a un sens. Croyez-le-moi, cette fois, quand Jésus souffle, il veut faire écho à quelque chose d'autre, et notamment à ce que nous pouvons entendre et lire dans le livre de la Genèse, au tout début du livre de la Genèse, au chapitre 2 et en son verset 7. Lorsqu'il est dit ceci, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol et il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. » Jésus, en faisant cela, veut que nous comprenions qu'il fait écho à ce que le Père a fait en créant l'humanité. Ce verset que nous entendons de la Genèse fait donc référence à l'acte créateur de Dieu, un acte créateur qui, de manière poétique, fait du Père éternel le potier de nos existences. Il est la source de vie pour chacun d'entre nous. Et dans cette manière poétique qu'use la Genèse, notamment dans ses premiers chapitres, le Père et créateur insuffle la vie à sa créature, à celle qu'il a fait à son image. Ainsi, c'est une manière que de nous raconter ce moment précieux entre le Seigneur et ses disciples à la suite de sa résurrection. Jean veut faire écho de cela, et c'est le seul d'ailleurs. Et Jean nous fait percevoir ici, par écho, le geste créateur, bien sûr du Père, en faisant référence à la Genèse, mais ici de nous faire découvrir ce geste nouveau, toujours un geste créateur. Jésus crée une nouvelle humanité par son œuvre à la croix, par l'envoi de l'Esprit Saint qui va bientôt être donné. Oui, le Fils comme le Père vont créer de nouveau une nouvelle humanité qui recevra le souffle de la vie véritable. Et Jésus ici anticipe et annonce à ses apôtres qu'ils vont être aussi les porteurs, les annonciateurs de cette nouvelle humanité, à cause de leur ministère, par la prédication qu'ils vont devoir donner et annoncer partout dans le monde à propos du pardon des péchés qui va être offert par grâce à tout homme et toute femme désireux de suivre Christ à son tour. Autrement dit, et de revenir sur ce geste étrange de Jésus qui souffle sur ses disciples, ce souffle du Christ anticipe la Pentecôte. Je ne suis pas pleinement sûr que l'Esprit Saint soit donné, ne serait-ce que partiellement là, mais oui, il va être donné pleinement à la Pentecôte pour chacun d'eux. Donc ce souffle du Christ anticipe cela, et surtout c'est un geste qui dit l'œuvre créatrice de Dieu, mais cette œuvre nouvelle de création. Autrement dit, Christ, en soufflant sur ses disciples, affirme qu'il redonne la vie au plus profond d'une humanité qui était éteinte et déjà perdue, comme l'étaient les disciples avant que Jésus n'aille les chercher. Et c'est ça que Christ dit. Maintenant qu'il a tout accompli, il est source de vie. Et c'est par lui que nous trouvons cette vie. Autre chose encore que nous rappelle et veut nous dire ce geste étonnant, bizarre, ce souffle du Christ sur ses disciples rappelle encore la miséricorde divine, celle d'un Dieu qui vient ranimer au plus profond de nous-mêmes ce qui a besoin d'être revivifié, ce qui a besoin d'être restauré afin de retrouver le chemin d'une relation fructueuse avec le Père, non seulement avec notre Dieu, mais aussi avec notre prochain. Nous avons besoin de cela. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans notre foi, je m'appuie sur l'exemple d'hier, mais dans notre foi, quand nous nous marions à quelqu'un, nous demandons à Dieu qu'il nous vivifie, afin que cette relation avec le conjoint puisse aussi être revivifiée, avancer dans sa grâce, avancer dans sa paix. Car nous savons à quel point les relations humaines, de tous bords, sont souvent malheureusement entachées de péché et parfois mènent à des échecs. Oui, par ce souffle, Jésus a fait naître l'humanité à une espérance nouvelle et éternelle par l'intermédiaire de ses émissaires, les disciples. Et tout comme Jésus fut envoyé par le Père, Jésus fut accompagné aussi par l'Esprit Saint. C'est bizarre, mais Jésus avait reçu aussi l'Esprit Saint. En avait-il besoin? Il a toujours été en relation étroite et parfaite avec et son Père et l'Esprit Saint. Mais ce temps où Jésus reçut l'Esprit Saint, vous savez, sous cette forme de colombe, dit aussi ce qu'était pour nous, plus tard, disciples, le ministère aussi qui nous est demandé. Oui, tout comme Jésus, je vous l'ai dit, fut envoyé par le Père, Jésus fut accompagné par l'Esprit Saint dès le début de son ministère. Et c'est que dans le temps de son ministère que l'Esprit Saint vient ou se manifeste. Et c'était dans ce temps où il avait été baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Il en est donc de même de tout disciple qui reçoit ce souffle de vie nouveau, qui fut donné à tous dès la Pentecôte, au cœur de Jérusalem. L'Esprit nous est donné par le Fils et par le Père, tel ce compagnon de route qui sera toujours présent à nos côtés, en nous invitant et en nous amenant à la perfection afin de témoigner fidèlement de la grâce de Dieu et du verdict de vie qui a été rendu à la croix pour tous. Voilà pour moi ce que signifie ce souffle de Jésus sur ses disciples. C'est cette vie nouvelle qu'il donne, et qu'il donne généreusement et avec grâce. C'est ce compagnon de route qui nous est maintenant offert et qui nous est définitivement offert. Jésus, lui, dans ce temps de ministère, se savait dans la présence du Père, mais aussi accompagné de l'Esprit Saint. Ils étaient tous les trois en communion, même dans son temps de ministère. Et ce qui nous est aujourd'hui donné, c'est cette même réalité. Nous recevons l'Esprit Saint. Ce Dieu qui se fait présent et qui nous accompagne, qui nous investit et qui est prêt à nous aider, là où il nous invitera à être témoins de sa grâce. Et nous l'avons tout à l'heure entendu de manière différente. Mais nous avons là deux sœurs qui se sont présentées à vous, qui sont venues donner leur témoignage. Il y en aura bientôt 8 autres encore, au fur et à mesure des cultes. Il y a encore 4 cultes où vous aurez occasion d'entendre des témoignages. Mais tous ont reçu aussi ce même souffle, cet esprit qui leur a été donné, ce don de Dieu. Et ce qui était aujourd'hui heureux, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais Dieu, comme je l'ai dit, fait une nouvelle humanité. Avez-vous noté qui était venu ? Nous avions une lycéenne et un professeur. Ils sont unis. Et oui, parce qu'en général, quand vous êtes plutôt du côté des lycéens, les profs, je ne peux pas dire que vous les voyez comme l'ennemi, mais ils sont quand même de l'autre côté. Il y a un profond gouffre qui les sépare. Mais tous les deux, en plus elles ont cheminé ensemble, sont sœurs dans la foi. Alors certes, il y a des différences d'âge, de génération, plein de choses. Mais elles partagent quelque chose de commun. Non pas qu'elles sont juste deux filles, c'est pas ça. Mais Dieu les a unies par l'œuvre de son esprit, par cette nouvelle humanité qu'il a commencé déjà à leur donner. Et vous avez là deux personnes qui sont des sœurs. Aussi vous, vous tous, mes chers frères et sœurs, si vous n'avez peut-être pas aujourd'hui encore reçu ce souffle de vie, ce compagnon céleste, il est tout à fait encore temps de s'approcher du Christ, afin que lui aussi souffle sur vous, avec le Père, pour que vous receviez cette vie nouvelle. Une vie nouvelle qui vous amènera justement à continuer et à vivre pour toujours dans l'intimité de Dieu. Amen. Que nous puissions peut-être juste nous incliner en silence, chacun, et méditer encore un instant. Seigneur, nous voulons te remercier et te glorifier pour ce que tu as accompli. Par ce don de l'Esprit qui nous est offert gracieusement, pour quiconque croit en toi et croit en ton Fils et en ce qu'il a accompli. Oui, Seigneur, merci pour ce cadeau merveilleux de cette vie nouvelle, de cette humanité nouvelle, qui est donné à quiconque et qui est donné généreusement. Seigneur, merci parce que par ce don de l'Esprit, tu nous unis à toi. Tu nous restaures et tu nous rassures. Tu nous consoles et tu nous fais cheminer à ta suite. Seigneur, que cet Esprit qui nous a été donné depuis le jour de la Pentecôte, Seigneur, qu'il puisse encore au plus profond de nous-mêmes, nous parler de toi, nous inviter à entrer plus encore dans ton intimité. Que cet esprit encore puisse se répandre sur beaucoup de ceux qui seront bientôt tes enfants, Seigneur. Et nous nous réjouissons aujourd'hui plus encore pour les témoignages déjà qui nous ont été donnés, de voir que ton œuvre continue dans ce monde, te remercier pour ces vies que toi-même tu as été recherchée. Pour ces témoignages déjà de Corinne, de Johanna et de tous ceux qui vont suivre encore. Il y en a déjà de plusieurs dont nous attendons avec impatience leur témoignage, mais nous savons encore, Seigneur, que cela ne va pas s'arrêter là. Et Seigneur, que justement, tels tes apôtres que toi-même tu as envoyés, que tu puisses encore nous envoyer tous, nous, en tant qu'Église, en tant que tes disciples, pour continuer d'être tes témoins fidèles, auprès de ces gens, autour de nous, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, de ces vieillards aussi, afin que nous puissions justement dire ta grâce, cette grâce qui est offerte, cet esprit qui veut se donner, qui veut faire don de la foi à chacun, une foi qui rend et donne la vie véritable, qui donne la liberté aussi, et qui restaure cette relation avec toi, notre Père. Seigneur, nous voulons te dire encore toute notre reconnaissance et te remercier pour ce que tu as accompli. Oui, que grâce te soit rendue à toi, notre Seigneur. Amen.
Je suis un peu plus bas maintenant parce que le pasteur a enlevé le marchepied, mais bon, Dieu nous a fait avec différentes tailles et tout est pour sa gloire. Et nous allons chanter un nouveau chant.